بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره Chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir de faire la salah en jama'a, en congrégation et de nous asseoir quelques instants pour essayer de comprendre la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Les majalis où on se réunit pour parler d'Allah, pour parler de son dîn, ce sont les meilleures assemblées de ce dunya. Ce sont les assemblées qui nous procurent le plus de récompenses. Et dans cette première décade de Dhul-Hijjah, nous devons faire le maximum d'efforts pour accomplir le maximum de bonnes actions. De même que nous devons faire le maximum d'efforts pour éviter le moindre péché. Et nous devons faire tout ce qui est en notre capacité pour rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal. On avait plus ou moins bien expliqué la dernière fois les vertus de la première décade de Dhul-Hijjah et que le croyant se doit de donner autant d'importance à cette première décade que nous donnons pour le mois béni de Ramadan. Ainsi donc, nous sommes la veille du Yawm al-Tarwiyah. Subhanallah, demain c'est le 8e Dhul-Hijjah où nos frères et sœurs en islam qui ont été élus par Allah Azza wa Jal, qui ont été choisis pour être les duyouf, les invités d'Allah, et vont se rendre à Mina pour commencer un rite que notre prophète alayhi salatu wa salam a accompli et qui, mashallah, existait déjà chez les Arabes avant même l'islam. Et ces manasiques autour de la Kaaba et de Safa Marwa, on retrouve leur origine, bien sûr, à travers l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Et donc, subhanallah, avant de venir au hadith, lorsque vous voyez une photo de Mina, il y a parfois de très belles photos sur les réseaux sociaux, des photos prises de, mashallah, une certaine hauteur, on peut voir à peu près l'ensemble des mukhayyamat, à peu près l'ensemble des tentes à Mina. Et nous voyons que, subhanallah, cet endroit peut accueillir jusqu'à 2,5 voire 3 millions de personnes. Parce qu'il n'y a jamais de chiffre officiel. Il y a les chiffres officiels concernant les entrées de l'extérieur. Quelqu'un vient en avion, quelqu'un vient en bateau ou vient en bus et traverse la frontière avec un visa, c'est répertorié. Mais les personnes qui, depuis le pays, ils vont accomplir le hajj avec des autorisations, parfois, ils essaient toujours de trouver un chemin. Mais ces personnes-là, subhanallah, on ne peut pas les compter. Donc facilement, quand ils vous donnent un chiffre, on peut rajouter 200, 300 000 au-dessus. Bref, pour revenir au fait que, subhanallah, lorsque nous voyons ce wadi de Mina, ben, on n'a qu'à se rappeler qu'il se fut une époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait à Mina. Il se fut une époque où le prophète alayhi salatu wa sallam habitait encore à Mecca et il venait donc de recevoir la prophétie. Et il essayait de transmettre son message aux Ahl Makkah. Et comme ces derniers refusaient, ben il profitait des mausam, il profitait des périodes de hajj. On va essayer de se rapprocher un petit peu. On n'a pas besoin de trop lever la voix pour ne pas perturber ceux qui prient. Barakallahu fikum. Tafassahu fil majal ici. Donc le prophète alayhi salatu wassalam profitait des ayyam mina où toutes les tribus arabes étaient présentes. Toutes les tribus de la péninsule arabe venait à Mina pour commencer le hajj. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam allait voir les tribus, tribu par tribu, pour expliquer c'est quoi l'islam, pour expliquer le principe du tawhid, l'unicité d'Allah, de le culte, de l'adoration, et les textes et les décrits qu'il voyait cet homme, hein, d'une, mashallah, il voyait que c'était quelqu'un de véridique, al-sidq. Il voyait la véracité à travers ses paroles, mais également à travers son visage. L'expression de son visage était l'expression d'un homme qui était sincère et véridique. Et il voyait en même temps, derrière cet homme, une autre personne plus âgée et qui disait aux gens, Ne l'écoutez pas. Il dit n'importe quoi, c'est un menteur. Et les gens étaient étonnés parce que celui qui disait, celui qui essayait de démentir, celui qui prêche, ce n'était personne d'autre que son oncle. Son oncle qui n'était pas dans le din, dans l'islam, il essayait d'humilier son neveu en public et il ne voulait surtout pas que les tribus arabes l'acceptent comme prophète. Mais malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais arrêté de prêcher Yawm Tarwiyah, le 8e de l'Hijja Amina. Jusqu'à ce que Allah Rabbul Izza organise les choses avec un asbab intermédiaire. Il y a des fois où Allah Rabbul Izza ouvre les portes sans intermédiaire. Et c'est valable pour des faits aussi importants que l'histoire de l'islam, l'émancipation, l'essor de notre din qui va commencer à Mecca, pendant l'ayyam al-hajj, tout va commencer à partir de là. Mais cela est valable également parfois, par analogie, on doit comprendre pour les situations de notre vie. Et c'est là toute l'importance de la sira, de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam pour le croyant. Ce n'est pas qu'une histoire, ce ne sont pas que des dates, ce ne sont pas que des faits, des événements qu'on mémorise comme on apprenait les fiches d'histoire par cœur à l'école. Là, wallah, c'est une leçon pour l'humanité. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et le أسوة حسنة, ce n'est pas uniquement dans la façon de s'habiller, de marcher, de manger, c'est également dans chaque instant de sa vie, nous devons être capables de prendre le prophète عليه الصلاة والسلام comme modèle, comme exemple. Ainsi, lorsque nous voyons comment Allah عز و جل a envoyé son aide à une situation où on ne pouvait pas imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux. On ne pouvait pas imaginer qu'est-ce qui pourrait aider ce dîn, alors que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le meilleur des hommes, c'est le plus éloquent, il a amené le meilleur des livres, et les Arabes, leurs oreilles restent fermées. En fait, ce n'était pas les oreilles qui étaient fermées, c'était le cœur qui était bouché. Et dans cette situation chaotique qui paraissait sans issue, où parfois même le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu besoin de sortir de Mecca. On connaît qu'il est parti où ça ? Dans un village à Taif, rendre visite au Banu Thaqif, la tribu dominante à Taif, pour prêcher l'islam. Et là aussi, il a été très mal accueilli. Ça, on l'avait rappelé il y a quelque temps, où il a été insulté, il a été humilié et on l'a même frappé. Le prophète alayhi salatu wassalam a été agressé physiquement et il saignait de son corps béni coulé le sang Mubarak. Donc là aussi, c'est une situation qui semble bloquée. À Mecca, la situation semble bloquée. Amina, il va prêcher son propre am, son propre tonton, son oncle, il vient, il essaie de décourager les gens. Vous savez, chez les Arabes, l'oncle, c'était très important. Le tonton, chez les Arabes, c'était très important. Je ne sais pas ce que dans les autres cultures qui découlent des cultures arabes, peut-être dans la culture comorienne, je ne sais pas, est-ce que le tonton a une place aussi importante? Mais chez les Arabes, l'oncle, c'était comme le papa. Si un tonton, il te dit quelque chose, ben, tu dois l'obéir exactement comme ton propre père. Donc, c'est le cas chez les Arabes. Et de voir l'oncle, pas sallam, le traiter de menteur, ben, ça le discréditait complètement, d'une certaine façon. Donc, Mina, c'est une situation qui paraît bloquée. Mecca, ça paraît bloqué. Et à Taif, ça paraît complètement bloqué. Et on se dit, ben, Mata Nasrullah, d'une certaine façon. Quand est-ce qu'Allah va envoyer son aide? Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'avait jamais perdu confiance. Il n'a jamais perdu confiance parce qu'il savait qu'Allah Rabbul Izza allait lui envoyer son aide. Et il avait vu également par le biais des révélations, les histoires des prophètes. Pendant le Ahd Makki, pendant la période mécoise, il y avait parmi les révélations, les Qasasul Anbiya, les histoires des prophètes, qui était comme une tasliya, un encouragement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers ces versets, il voyait comment Moussa alayhi salam a connu des difficultés avec son peuple et il a été patient. Comment Isa alayhi salam, Jésus, a connu des difficultés avec son peuple et était patient. Il a réalisé ذلك. Nuh alayhi salam, combien d'années? Alf sanatin illa 50 ama. 1000 moins 50 années, c'est-à-dire 950 années de prêche, où il avait eu quelques personnes qui avaient accepté le dîn. Et Nuh alayhi salam a expliqué, oh Allah, j'ai fait tout. Inni da'awtuhum jihara. Il dit que je les invitais en public, je les invitais en privé, j'ai utilisé tous les arguments et toute l'éloquence aussi qu'Allah peut accorder à un prophète. Personne, personne. Et pourtant Noé fait partie des Ulul Azm, des cinq grands prophètes. Voyez le résultat. Quasiment pas de résultat. Mais donc, à travers ces histoires, le prophète alayhi salatu wassalam avait réalisé c'est Nasrullah, l'aide d'Allah, il vient avec ou sans asbab. Et le prophète a réalisé également c'est quoi Sunnatullah. Comment est-ce qu'Allah a organisé les choses? L'aide d'Allah ne vient pas avec la facilité. L'aide d'Allah ne découle pas d'une suite logique que nous pouvons concevoir et prévoir. Ce serait trop facile que tu prévois de faire les choses de telle façon et tout se passe bien et tout est idéal. Ça, c'est dans, soit c'est dans les contes de fées, ceux qui n'existent pas, ou alors c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Parce que ceux qui n'ont pas la foi, est-ce qu'ils ont besoin d'épreuves sur ce dunya? Ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils ont les bienfaits, mais « ad-dunya sijn lil mu'min wa janna lil kafir ». Allah leur a accordé le « janna hunaka fi dunya ». Les jours de Qiyama, ils n'auront rien. Le Prophète n'a jamais perdu confiance en Allah Azza wa Jal. Et Amina, Fath, Nasrullah va venir à Amina, où le Prophète alayhi salatu wassalam va rencontrer des personnes qui viennent de quelle ville? Hein? Où sont les grands savants de Sira? Il y a eu deux bonnes réponses tout à l'heure. Il y a eu Taif, Banu Thaqif. Banu Thaqif, c'était quand même un peu difficile ça. Il a rencontré des gens qui viennent de Yathrib. Et Yathrib, ça correspond à quelle ville? Al-Madina al-Nabawiyya. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre une délégation de Yathrib. Avant, ça s'appelait Yathrib. Ils viennent voir le Prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils avaient entendu parler de la réputation de cet homme. Honnête, véridique, sadid al-ra'y. Il avait toujours une vision juste. Ses mashwara, son avis était tranchant. Il allait droit au but et il avait la clairvoyance. Les Arabes, ils racontaient, même s'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il y avait WhatsApp, mais ça, les messages passaient de tribu en tribu. On connaissait les gens qui étaient baris, les gens qui avaient ce genre de qualité. Et il y avait une admiration qui était en train de monter autour de la personnalité de Mohammed ibn Abdullah, alayhi afdalu salat wa atammu taslim. Et donc, le prophète alayhi salat wa salam, il est sollicité par les gens de Yathrib qui vont lui poser une question. Il a dit, oh Muhammad, Allahumma salli ala nabina Muhammad, disent qu'on a des gros problèmes chez nous. On a de gros problèmes, c'est quoi? On a des querelles entre deux clans. Quels étaient ces deux clans? Hein? Les élèves qui ont fait sirah avec nous. Abdul Karim. Hein? Les Aous et les Khazraj. Les Aous et les Khazraj, deux tribus arabes qui se livraient bataille depuis des générations. Adjal, génération. Et Qaddar Allah, Allah a voulu que ce nizar, ces problèmes qui avaient lieu à 450 km de Mecca, deviennent un asbab, c'est une situation prolifique pour que les gens aient besoin d'un guide et qu'ils vont demander conseil à cet homme. Et le prophète alayhi salat wa salam n'a pas dit que si vous me prenez comme chef, je vais régler votre problème. Il va dire, vous voulez la solution? C'est dans la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que quand vous allez dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Aous et Khazraj seront frères en islam. Parce que dans notre dîn, il y a innamal mu'minuna ikhwa. Et qu'il n'y a pas la fadla li arabi ala ajami, wa la aswad ala ahmar, wa la abiyad illa bit taqwa. C'était les paroles qui avaient heurté Hazrat Bilal, radiyallahu anhu, quand il était encore esclave, il avait entendu ces paroles que dans l'islam, l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe. Le blanc n'est pas supérieur au noir, ni au ahmar, au rouge. Rouge, ahmar, c'est-à-dire celui qui a la peau un peu plus foncée, asmar. Si ce n'est pas la taqwa, la crainte d'Allah. Des paroles qui, mashallah, reflètent les principes que aujourd'hui nous essayons de faire vivre hein, dans toutes les grandes civilisations, les principes de liberté, les principes d'égalité, et notre dîn là, propagé bien avant 1789, ou bien avant toutes ces dates. Et donc, ils vont voir le prophète alayhi salatu wassalam qui leur donne conseil que si vous acceptez l'islam, voilà les futuhat, l'aide d'Allah. Ils retournent à Yathrib, ils expliquent, et les gens, ils commencent à être convaincus, et c'est la bay'atul aqaba, al-oula qui va avoir lieu, ensuite bay'atul aqaba, Thania, le premier serment d'allégeance, ensuite le deuxième serment d'allégeance. Et dans le deuxième, il y avait beaucoup plus de monde qui était venu. Et après le Bay'atul Aqaba Thania, le deuxième serment d'allégeance, ils vont faire une demande. Ils vont dire qu'on a besoin d'un mu'allim, on a besoin d'un enseignant. Les savants disent également que nous voyons à travers cette demande que l'islam ne peut s'installer uniquement par de beaux discours. Pour que l'islam, il est mustaqir, il rentre dans les cœurs et que la pratique soit correcte, il faut al-ilm et il faut al-mu'allim. Il faut les versets, il faut les textes, mais il faut également l'enseignant. Si on n'a pas les textes et on n'a pas l'enseignant, on ne pourra pas avoir une compréhension saine de la religion. Hada. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, va envoyer un jeune homme. Et ce jeune homme, subhanallah, qui est-ce qui l'a amené à cette situation? Alors qu'avant c'était le jeune le plus riche, le plus convoité, le plus célèbre de Makkatul Mukarrama. C'était le jeune qui faisait le buzz, on pourrait dire. C'était le jeune qui était le plus admiré de tous. Quand on parlait de... Qui encore? Comment il s'appelait? Allahu Akbar. On va revoir les notes. Mus'ab bin Umair, radiallahu anhu. Quand on parlait de Mus'ab bin Umair, c'était vraiment le plus jeune, le plus beau, le plus riche. Il mettait des parfums. Et nous, on met parfois des parfums qui coûtent un peu cher. Dites-moi, est-ce que ça sent bon? Vous avez intérêt de dire oui, sinon vous aurez des problèmes avec moi. D'accord? Même si vous tenez bouché, vous dites oui. Barakallah fi. On met parfois des parfums composés de tel oud, de ambar, de sandal, de ward, de taif, des roses, de taif, des parfums, mashallah, parce que c'est une sunna. Mais Mus'ab bin Umair, c'était un autre niveau. Quand il se parfumait, il passait dans une rue, les gens, ils savaient qu'il était passé dans cette rue. Ajib. Il passait dans une rue. On ne parle pas une rue, et le parfum restait. Même s'il était parti, il dit, ah, Mus'ab bin Umair est passé par là. Riche. Mashallah, il avait tous les bienfaits. Mais il a découvert le haqq, et il a réalisé qu'ils sont dans le batil. Et lorsqu'il a annoncé à ses parents que j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, et que Mohammed est son prophète, les parents ont dit, abadan, jamais de la vie. Soit tu restes avec nous, ala din et abaik, c'est la religion de tes parents, c'est-à-dire, usjud amam al-hajar. Allahu Akbar. Prosterne-toi devant les pierres. Et Allah Rabbul Izzah l'a enlevé min al-dhulumat ila al-nur. Et tous ceux qui sont sortis de l'obscurité vers la lumière, ils sont sur le même chemin, le même guidé de Mus'ab bin Umair et tous les gens qui ont eu la guidée de la part d'Allah, qui ont été aimés par Allah Rabbul Izzah. Fa nashkurullah, shukran lillah. Et Mus'ab bin Umair, il passe de cette situation de jeune homme envié, riche et tous les bienfaits. Et il devient pauvre. Les parents disent, si tu acceptes la religion de cet homme, sors d'ici. On te chasse de la famille, de la tribu, parce que tu seras notre déshonneur. Il est devenu pauvre, une pauvreté qu'on ne peut pas décrire. Et les croyants n'étaient pas très riches non plus à Makkah. Certainement, ils ont essayé de l'aider, mais on a l'exemple quand il est décédé, subhanallah, quand il a donné sa vie dans le chemin d'Allah, ben, quand on devait l'enterrer, si on remontait son kafan, ben, on découvrait ses pieds. C'est-à-dire, on pouvait pas, le vêtement qu'il portait n'était pas suffisant pour couvrir son corps. Il n'y avait même pas assez d'argent pour avoir un vêtement décent qui couvre entièrement son corps pour être enterré. Ça, c'était shiddatul faqr, la pauvreté de Mus'ab bin Umair. Allah crée la situation qu'une personne sorte de cet état pour devenir muhtaj d'une situation comme cela, pour qu'il devienne, et par le mujahada, par le sacrifice, il a obtenu des qualités et Allah l'a choisi pour da'wa ila Allah. Savants disent que quand Allah veut du bien pour une personne, Allah le choisit pour la propagation de la religion. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid din. Allah lui accorde la connaissance, la compréhension de la religion. Et la personne, maintenant la deuxième étape, qui a eu la compréhension, qui a eu le ilm, si Allah veut du bien pour lui, Allah le choisit pour faire le khidmat du din, le da'wa ila Allah. Selon la révélation d'Allah et selon les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, situation est écrite asbab. Est écrit pour cet homme, ce jeune homme, il sort de je ne sais où, pour arriver à ce point, et à partir de ce point, il devient la personne idéale pour prêcher. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie donc Mus'ab bin Umair à Al-Madina al-Nabawiyya, et il n'y a pas un bayt, il n'y a pas une maison ou une tribu où l'islam n'est pas entré avec la da'wa, en invitant par le Coran, bas. Mus'ab bin Umair, il ne faisait que réciter les versets du Coran, et les versets touchaient les cœurs parce que les gens étaient à la recherche de la vérité. De cette façon, Moussa ibn Umair, ce jeune homme, a été l'intermédiaire pour créer le Bi'a Islamiyya, pour créer cette ambiance islamique qui commençait à monter à Al-Madina, cet essor de l'islam qui a commencé à Taïba, et la ville est devenue musulmane. Et il restait bien sûr les attributs qui ne s'étaient pas convertis, mais majoritairement Al-Madina était devenu un endroit où il y avait l'islam, et le prophète alayhi salatu wassalam a ensuite reçu l'ordre d'Allah Rabbul Izzah de la hijra, et les sahaba sont partis, puis l'histoire on connaît, et le prophète lui-même il est parti, et arrivé à Al-Madina Al-Munawwara, c'est là que l'islam a connu son véritable essor. Et tout a commencé où? Par une rencontre à Mina. Et demain, nos Hujjaj, Baytillah, ils vont se rendre à cet endroit et qu'ils se souviennent que c'est là que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait énormément d'efforts pour la da'wa, pour la prêche, et que l'aide d'Allah est venue à partir de cet instant. Une personne qui connaît l'histoire, qui apprend la sira, ben, il voit les choses d'une façon différente. Combien de personnes ils vont à Mina, ils vont à Arafat, Muzdalifa? Ben, ils enchaînent et puis ils ne réalisent pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont la chance de vivre. Avec une connaissance de la sira, ben, on peut apprécier chacun de ces instants. Qu'Allah facilite le pèlerinage, le hajj pour nos frères et sœurs en islam, et qu'Allah Rabbul Izzah nous choisisse tous, tout le monde ici présent, pour être là-bas l'année prochaine. Qui vous dit que ce n'est pas possible? L'année prochaine, on se retrouve à Mina assis sur les tapis, même si c'est à terre sur le sol, on le fera, on dort sur un petit matelas et tout. Et alhamdoulilah, on peut expliquer que demain, on va aller à Mina, on va faire ça, et puis le lendemain, on va aller à Arafat. Subhanallah, Allah Rabbul Izzah crée des situations, min haythu la yahtasib, d'une façon où l'homme n'imagine même pas. Bon, on revient un peu sur terre, avec cette nostalgie du hajj. Dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu que nous avons lu, le prophète alayhi salatu wassalam décrit un haut degré de islam, que parmi les choses qui amènent la perfection de l'islam chez un croyant, c'est le fait de délaisser, de ne pas se préoccuper de ce qui ne le concerne pas. Et ça, on avait expliqué un petit peu en introduction il y a 2 ou 3 semaines. Il dit que le ma'na, jumla, le sens du hadith, en résumé, c'est lorsqu'il y a une problématique qui te concerne, il est tout à fait normal de porter attention, d'essayer de trouver des solutions. Mais lorsqu'il y a un problème qui concerne d'autres personnes, et tu ne peux pas aider ces gens, donc n'essaie pas de savoir quel est le problème par simple curiosité. Parce que la curiosité ne fait pas partie des qualités du croyant. Maintenant, si tu connais quelqu'un, un problème, et tu peux essayer d'aider la personne, soit financièrement, soit en jouant un rôle de médiateur, s'il y a un problème entre un homme et une femme, ou entre un père et un fils, entre 2 familles, ça c'est autre chose. Mais quand on connaît pertinemment que cela ne nous concerne pas, et que nous n'avons rien à porter, il ne fait pas partie du akhlaq du musulman d'aller fouiner pour essayer de trouver certaines choses, comprendre certaines choses, alors que subhanallah, on a tellement besoin d'occuper notre temps à construire notre akhira, on n'a vraiment pas besoin d'occuper notre temps à chercher les problèmes et les défauts des autres. Parce que très souvent, lorsqu'on cherche à comprendre les situations de telle personne, en fait, on est en train de chercher les défauts des gens. On ne se rend pas compte, on est un petit peu berné, mais en finalité, à force de chercher, on va toujours trouver qui c'est qui a tort. Quand il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui a tort. Mais de cette façon, on va finir par découvrir les défauts d'un frère ou d'une sœur en islam, et ça, il ne faut pas. Il ne faut surtout pas aller à la recherche des tatabbu' awrat al-muslimin, chercher qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que les gens ont caché. Ce qui a été caché, on laisse cacher, on n'a pas besoin de savoir, pour toujours garder un husn dhan, une pensée positive de nos frères en islam. Donc ça, c'est le sens global du hadith. Maintenant, avec quelques détails, on ne va pas être long ce soir, encore 10 minutes, inshallah, parce qu'on doit aller à Mina demain matin. Non, pardon, c'est pas nous. Donc, non, demain, nous, on a les grèves de bus, donc c'est moins amusant. Et alhamdoulilah, là-bas, le hafil et le sapko, et ainsi de suite, ça marche bien, mashallah. Donc, les muhaddithin, rahimahumullah, ils expliquent que tout d'abord, nous voyons à travers ce hadith qu'il y a plusieurs degrés de islam. Il y a plusieurs degrés de islam, de soumission à Allah Azza wa Jal. Et d'un croyant à l'autre, d'une personne à l'autre, le degré de soumission à Allah est différent. Al-istislamu lillah, ce degré de soumission est différent. Et cette soumission, il y a soit al-istislam lillahi zahiran ou batilan. Soit la soumission, il y a les deux qui sont nécessaires. Amma batilan fastislam al-abd li rabbihi bi islahi aqidatihi wa islahi qalbi. Comment est-ce qu'on se soumet à Allah intérieurement? C'est en développant les croyances authentiques, les bonnes croyances, les aqidah sahiha, et également en purifiant son cœur de toutes choses mauvaises. Méchanceté, jalousie, mauvaise pensée, et tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on sait qui est mauvais pour le cœur, cette soumission à Allah, c'est de se contrôler. Faire en sorte qu'on ne laisse rien de mauvais s'installer dans ce cœur, et on enlève également tout ce qui peut aller à l'encontre des croyances saines et authentiques que notre prophète nous a enseignées. Maintenant, istislamul mar'i lillahi zahira, la soumission à Allah Azza wa Jal de façon apparente, extérieure, c'est par le biais des bonnes œuvres, par le biais des bonnes actions. Et là aussi, on pourrait donner trois catégories. Parmi les bonnes actions, les bonnes actions qu'on accomplit avec les membres, les bonnes actions également qu'on accomplit bil-lisan, les actions qu'on accomplit avec la langue, les paroles qu'on va dire. Et d'une façon générale, les bonnes actions qu'on va accomplir au travers de notre relation envers les gens, avec les gens, à travers notre akhlaq, notre mu'amala, notre façon de nous comporter avec les gens. Mais là aussi, on va contribuer à, d'une certaine façon, à une soumission à Allah. Parce que très souvent, le terme istislam ou lillah, on a compris que se soumettre à Allah, c'est prier. Se soumettre à Allah, c'est jeûner. Oui, très bien. Se soumettre à Allah, c'est payer sa zakat. Très bien. Mais se soumettre à Allah, c'est également respecter les ordres d'Allah dans tous les domaines de la religion. Dans tous les domaines de la religion, ce n'est pas uniquement dans les ibadah, pas uniquement dans le culte, mais également dans le akhlaq et le mu'amala. Dans la façon de se comporter avec les gens, se soumettre à Allah, c'est respecter son prochain. Se soumettre à Allah, c'est parler avec son frère en islam de façon respectueuse. Se soumettre aux ordres d'Allah dans ce genre de situation, dans ces domaines, c'est quand on parle avec une personne, on ne le prend pas de haut. On ne ressent pas de fierté, d'orgueil. On ne lui fait pas ressentir qu'il est inférieur à nous ou autre chose. Il a réalisé. Donc, dans les relations de notre akhlaq avec les personnes, ben là aussi, il y a une soumission à Allah Azza wa Jal. Et en conclusion, le charih, celui qui explique le hadith, il dit, donc nous comprenons que le degré de soumission à Allah est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont se soumettre à Allah parfaitement concernant les bonnes œuvres, mais concernant l'akhlaq, niet. Du tout. Il y en a d'autres qui vont se soumettre à Allah concernant le bon comportement. Moi, je connais des gens qui, mashallah, concernant leur akhlaq, vraiment, il n'y a rien à dire. Des gens qui sont prêts à accueillir des étrangers chez eux, à donner à manger, à dépenser, à aider les gens, d'une telle façon que parfois nous-mêmes, on est admiratif. Mais quand on parle de salah, ils disent que ce n'est pas le plus important. C'est le cœur qui est le plus important. Là-dedans, les propres, et j'agis de la meilleure des façons avec tout le monde. En fait, c'est vrai que cette personne, on ne va pas dire que la personne est mauvaise, on va le classer dans la catégorie des pécheurs en Dieu. Sinon, cette personne a développé une soumission à Allah Azza wa Jal par le biais du bon comportement, mais cette personne a oublié la soumission envers Allah par le biais des a'mal. Zahira, des bonnes actions liées au culte directement au droit d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est une erreur impardonnable. Ce qui est une erreur très grave. Maintenant, Allah peut pardonner, bien sûr. Mais je veux dire que, de la façon que nous devons comprendre la pratique de la religion, on ne peut en aucun cas accepter un seul type de soumission et en délaisser un autre. Parce qu'à partir du moment où on délaisse une soumission à Allah Azza wa Jal, on n'est pas dans les plus hauts degrés de foi, notre iman ne sera jamais complet. Cette personne qui prie, qui jeûne, qui lit le Coran, qui fait le shuruq, qui fait le dhikrullah longueur de journée, mais qui a un mauvais comportement avec sa femme, un mauvais comportement, on aurait dû commencer par ça, avec sa maman, avec son papa, avec son épouse, avec sa famille, ses proches, ses voisins, c'est quelqu'un qui n'aura jamais atteint un haut degré de foi, même si dans la mosquée c'est le meilleur. Même si en apparence, mashallah, c'est l'homme le plus, entre guillemets, le plus pieux. Dans l'autre sens aussi, celui qui a le meilleur des comportements, on a bien expliqué, mais qui ne prie pas, ou qui ne baisse pas son regard, ou qui, concernant la tenue vestimentaire, concernant les dames, une femme qui est dans le social, par exemple. Du matin au soir, du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, il donne, il dépense le chemin d'Allah, il réunit les fonds pour envoyer l'argent dans différents pays pour aider les pauvres. Masha'Allah, ça c'est de, ce sont là de bonnes œuvres. Elle donne la sadaqa et elle permet aux personnes nécessitées de bénéficier de la sadaqa. Mais si la tenue vestimentaire ne suit pas, en aucun cas on va dire que la personne est de droit chemin. Ah ben dan wallah. Même si la personne, comme on l'a dit encore, il dépense toute son énergie, tout son argent pour nusrat al-islam al-muslim, pour aider les croyants et pour aider l'islam, si cette dame, par exemple, elle n'arrive pas à se couvrir de façon pudique comme l'islam nous demande, ben cette personne n'a pas atteint le vrai iman, le vrai islam, et sa istislam ou lillah, sa soumission à Allah azza wa jal, n'a pas atteint le degré qui est requis, qui est demandé par les croyants. Et cette deuxième partie du discours, on a beaucoup de mal à le faire passer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent surtout pas entendre parler de ça. Parler de tout, mais ne venez pas dire aux dames qu'il faut se couvrir correctement. Alors là, ils vont dire que là, c'est du rigorisme, ou c'est de l'extrémisme ou autre chose. Ah ben, Allah, ce sont là des versets du Coran qui demandent aux femmes de se couvrir correctement. Et si on ne propage pas, et si on ne fait pas le rappel, qui le fera? Et qu'est-ce qu'on aura à répondre le jour de Qiyama? Est-ce que le jour de Qiyama, des personnes peuvent dire Allah Azza wa Jalla, on ne voulait pas entendre parler de ça parce que le contexte est différent? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maintenant, on passe au 9e jour de l'Hijja. Le jour de Arafat, le prophète alayhi salatu wa salam reçoit ce verset de la part d'Allah Azza wa Jalla. Quand ce jour, Allah a parachevé la religion. Et akmaltu, c'est que la religion elle est parfaite et complète. Deux sifat, parfaite et complète. Et si Allah Rabbul Izzah a décrété qu'une action doit être pratiquée jusqu'au Qiyama, cette action doit être pratiquée jusqu'au Qiyama, jamais le contexte ne permettra aux croyants de dire que non, maintenant c'est plus obligatoire ou ce n'est plus possible. Hada. Donc voilà. Et il faut que le croyant intègre bien le fait que le sens profond de la soumission à Allah, ce n'est pas uniquement les prières. C'est l'ensemble, c'est la vie du croyant dans son akhlaq, dans son mu'amala, dans ses a'mal salihah. Il doit retrouver une soumission totale et parfaite à Allah Azza wa Jal. Et cette soumission ne pourra avoir lieu qu'à partir du moment où il a la connaissance religieuse. Oui ou non? Parce que si quelqu'un ne connaît pas ce qu'il faut faire ou qu'il ne connaît pas ce qui est interdit, ben, il ne le fera pas. Et du coup, en finalité, sa soumission à Allah ne sera pas complète. Parce qu'il n'a pas la connaissance, il ne sait pas. Peut-être qu'il passe à côté de certaines choses qui sont obligatoires. Donc ça c'est un point important. On continue. وَمِمَّا يَزِيدُ فِي حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ. Et ce qui va permettre à la personne de se dépasser dans le parachèvement de son iman, de sa soumission à Allah Azza wa Jal. Là il donne l'exemple du hadith. Et il y a plein d'autres hadiths qui citent, soit c'est par le terme مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ. Ou alors, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Il y a pas mal de hadiths qui commencent par man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il fasse telle chose, ou qu'il ne fasse pas telle chose, qu'il fasse attention, ou qu'il s'efforce d'accomplir telle bonne action. Les ulama disent que ça, c'est kamalul iman. C'est-à-dire que celui qui l'accomplit, celui qui arrive à mettre le hadith en pratique, ben, cette qualité-là permettra à la personne d'atteindre les hauts degrés de foi. Et si la personne ne le fait pas, quelle que soit l'intensité de ses autres bonnes actions, ben, il n'atteindra pas les hauts degrés de iman, il y aura toujours un manquement. Parmi ces hadiths, quand on dit que man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, subhanallah, le terme ne me revient pas, que la personne reçoive bien et traite correctement ses duyuf, ses invités. Et dans d'autres hadiths, que n'a pas réellement cru en Allah et au jour du jugement dernier, celui dont le voisin n'est pas tranquille, c'est-à-dire celui dont le voisin n'a pas une vie paisible et qui doit en permanence craindre les représailles de son voisin. Il y a que quand on n'a pas de bonne relation avec le voisin, ça c'est un axe, un manquement de la foi. Quand on ne reçoit pas correctement les gens qui viennent chez nous, c'est un manquement de la foi. Et là, ce hadith met également en avant une qualité et de façon mafhoum khalafa, par compréhension inversée, on comprend que celui qui s'occupe des affaires des autres, celui qui aime fouiner, qui aime connaître qu'est-ce qui se passe dans telle famille, qu'est-ce qui s'est passé dans tel couple, et ainsi de suite, ben cette personne-là, il a naqs fil iman. Il y a un manquement de la foi, et dans sa soumission à Allah Azza wa Jal, il y a un manquement qu'il ne pourra jamais combler tant qu'il ne réalisera pas qu'il ne faut pas s'occuper des choses qui ne nous concernent pas. Hada. En commentaire, il dit également que, subhanallah, la personne qui entre dans ce cercle vicieux, autant automatiquement, il va enclencher, il va appuyer sur d'autres boutons de péché. Il va obligatoirement finir par soit découvrir les défauts des gens, c'est ce qu'on appelle « tajassus », c'est comme si on espionne pour trouver les défauts, ce qui est interdit, ou alors il va finir par faire le riba, le bohtan, le namim, soit la médisance, soit il va calomnier, soit il va colporter de nous, parce que quand on a appris une info croustillante, dites-moi, quelle est la prochaine étape? Tu as eu une info en or sur telle personne. Terrible, j'aurais jamais pensé que Marmaïla a fait ça. Incroyable. What is next? Quelle est la prochaine étape? Je vais voir Abdul Karim, je vais voir Riyadité. Et là, je te dis quelque chose. Béni ou Béinak, Amana, Amana. Wallahi, Wallahi, dis Wallahi. Ne dis à personne. Tu dis à personne, tu jures, je jure. Bon, il a fait telle chose, il est sorti avec telle fille, il a mis la fille enceinte. Et là maintenant, il vient à la mosquée, il prie, il fait le grand cheikh, le grand fundi. Il dit, astaghfir. Et voilà. On a appris, on a fait tajassus. Voilà tajassassu. Voilà yartab ba'dakum ba'da. On a fait les deux, tajassus. On a espionné. Espionner, c'est pas également uniquement faire le voyeur avec son... Comment on appelle ça? Les longues vues ou les jumelles. Vous en avez, d'accord? C'est pas uniquement ça, hein? C'est également chercher les nouvelles, espionner, demander, enquêter. Il y a des gens qui sont comme pire que les renseignements généraux des ST. Ils ont besoin d'une nouvelle, ils vont voir plusieurs contacts pour connaître qu'est-ce qui se passe au sein de ce couple. Pourquoi est-ce qu'elle a cassé? Ça ne te concerne pas. Tu ne vas même pas les aider. Tu ne vas même pas, subhanallah, jouer un rôle de médiateur ou aider les enfants, ou aider la famille, ou les encourager. Rien. Hein, comme je vous avais dit là, il y a 3 semaines, chez les Indiens, on a passé à Panchat. Panchat, c'est chercher des nouvelles. Et on discute, on aime. Il y a un madja, on est content, on aime parler des gens. Et ça, c'est piège de shaitan. Donc, on a fait les deux péchés. Voilà, tajas sasou, et on a espionné. Voilà, yartab ba'dakum ba'da. Ne faites pas la médisance, et on l'a fait. Et quand la médisance a été accomplie, quelle est la prochaine étape? Vous l'avez dit vous-même, namima qila wa qala, on va rapporter. On va dire aux gens, et la personne ci va dire à son camarade, pareil, wallahi, tu jures, tu dis pas, et il va dire à un tel, il va dire à un tel, et on a exposé les défauts de notre prochain. Et quelles sont les conséquences, jour de Qiyama, quand on a exposé les défauts de notre frère en islam, ben, il est possible que nos péchés soient dévoilés au Ahl al-Mahshar, et ce serait la pire des humiliations. Alors que le croyant se doit de protéger le izza du musulman. On doit toujours protéger l'honneur d'un croyant. Tu as appris qu'une personne, je ne sais pas de quelle façon, la nouvelle t'est parvenue qu'une personne a fait telle bêtise, tel péché, ben, de un, tu ne dois pas avoir une mauvaise pensée. Peut-être qu'il a déjà demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Quand il y avait une femme qui avait fait le zina, à l'époque du prophète alayhi salat wa salam, je ne sais plus si c'était al-Marzoumiya, il y avait le nom de cette femme de sa qabila, sa tribu, et que le prophète, un sahaba avait maudit cette personne après coup. Le prophète a dit, non, ne dis pas ça. Il a dit, tu ne sais pas, peut-être cette personne a demandé un tawba tellement sincère que son tawba, s'il était distribué à Ahl al-Madina, tout le monde aurait pardon. Tellement le tawba que la personne avait demandé était sincère. Juge pas, ne viens pas porter le jugement. Allah musta'an. Et Allah musta'an, quand on commence, enfin on va pas aller plus loin, mais quand on commence à rentrer dans cette histoire de chercher les défauts et ainsi de suite, ben de un, on finit par juger les gens, on finit par avoir une mauvaise pensée, et qui te dit que la personne effectivement n'a pas demandé pardon, n'a pas demandé tawba? Donc on doit protéger l'honneur, on ne doit jamais dévoiler les défauts, les manquements d'une personne. Ça c'est un principe de notre dîn. Et on pourrait citer comme ça d'autres principes moraux, et qui permet à la société, à la communauté, à la mujtama, de bien se porter. Parce que ça fragilise une communauté. Dites-moi, est-ce que ça renforce ou ça fragilise? Ça fragilise. Dans le mariage, il rentre à la mosquée, tout le monde regarde lui. Il y a un matif, il est enceinte, c'est lui. Et il comprend qu'il y a un problème. Les gens ne m'ont jamais regardé comme ça avant. C'est-à-dire, quand tu as cassé un maillon, tu as affaibli la communauté. Pour ça, il ne faut jamais casser quelqu'un. Il ne faut jamais déshonorer une personne. Parce que quand le prophète dit que l'islam, nous sommes kalbunyan, le terme c'est kalbunyan il wahid, yashuddu ba'duhum ba'da. Vous êtes comme une construction, chacun supporte et chacun repose sur son prochain. Vous avez cassé une brique. La brique d'en haut tombe, la brique d'en haut tombe. On est en train de fragiliser la umma. Et ça, c'est le travail des munafiqin, de fragiliser la umma. C'est pour ça, comme on a dit, il ne faut jamais donc, subhanallah, dévoiler les défauts de notre prochain. Hada. Tu es parti sur une autre idée et ça m'est sorti de la tête. Oui, donc parmi également les autres règles de akhlaq, de comportement, qui permet à la société, à la mujtama, de bien se porter et qui permet à la communauté d'être toujours forte et de ne jamais sombrer dans des problèmes comme ça, c'est également lorsqu'Allah Rabbul Izzah dit le Coran, « Inja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu ». Ça, c'est un principe de base. Vous entendez une rumeur, ne foncez pas de la rumeur. Vous avez entendu que telle personne a fait telle chose, ne croyez pas ceux qui vous disent ça. Si vraiment c'est quelque chose de lourd, cherchez à ce que c'est vrai. Avant d'affirmer, avant de prendre une décision, on ne doit jamais écouter les rumeurs, ne jamais écouter les bruits de couloirs. Parce que à une certaine époque, on pouvait parler des bruits de couloirs. Maintenant, ce n'est plus des couloirs, c'est des bruits d'espace. Et c'est même des bruits... subhanallah, des bruits, comment on pourrait dire ça, on n'a pas que les réseaux sociaux, des bruits numériques ou tout ce que vous voulez, parce que les bruits, les rumeurs, maintenant c'est par les réseaux sociaux, c'est par les mails, c'est par les WhatsApp, on entend, on ne doit pas croire ce qu'on entend, on doit chercher est-ce que c'est vrai ou non. Là, on n'est pas dans le cas de figure, chercher des faux de quelqu'un, mais quelqu'un nous donne une information, attention à telle chose, avant de légiférer de prendre une décision, on doit être sûr qu'on ne va pas prendre une décision qui sera injuste. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui était postée, qui était envoyée sur des groupes de WhatsApp. On montrait dans le Rawda, dans la partie qui fait partie, la partie de le Haram, Al-Madina, Al-Munawwara, une partie, la moquette est blanche, ça fait partie du Jannah. Entre la maison du prophète alayhi salatu wassalam et son mimbar. Rawdatun min riyad al-jannah. On voyait les gens courir. Il y avait une vidéo de quelques secondes. Et certaines personnes ont transféré cette vidéo avec ce commentaire qu'il y a le feu de Rawda. Il y avait le feu dans Masjid Nabawi. C'est hajib. Après, on a demandé. Moi, je savais pertinemment c'était quoi. J'ai déjà vu ces mouvements de foule. C'est tout simplement quand le Rawda est fermé pour les dames. À un moment donné, quand les dames sont parties, ben, la masjid, elle revient, cette partie revient pour les messieurs. Et là, bon, il y a des gens qui sont bien éduqués, mais après, bon, la plupart des gens qui vont là-bas, ils ne comprennent pas le respect de la mosquée. Allah musta'an, ils courent parce qu'ils veulent obtenir les récompenses et les vertus de faire les doigts, les invocations à cet endroit. Et donc, les gens, ils accourent. Donc, quelqu'un a pris cette vidéo, il a fait son commentaire, et les gens, ils propagent, le feu de Madina, a'oudhu billah. Et parfois même, c'est des gens intelligents. Parfois, c'est des gens religieux. Qui continue à propager ça sans comprendre. Et on me demandait une personne qui habite à la Madina, dit jamais là, il n'y a pas d'incendie, ça se saurait. Subhanallah. Également, il y a quelques temps, il y avait une vidéo où quelqu'un il montrait de la viande et tout, dans Makkah, et dit voilà, ils ont donné tel restaurant, ils ont fait cuire la viande de chien, et ils ont fait la soupe, et ils sont en train de vendre à des chaînes de restaurants. J'ai dit déjà, j'ai habité, subhanallah, pas mal d'années à la Madina, j'ai vu une seule fois un chien. Une seule fois. Le loup, oui. Le loup, il y a. Il y a des loups dans les écarts. Mais le chien, il n'y a pas de chien. Une fois de toute ma jeunesse, de mes études, on avait un petit caniche et on se demandait qu'est-ce qu'il fait là avec un monsieur. Mais le monsieur était un peu bizarre aussi. Frère. Donc, il avait un chien. Et normalement, les chiens, c'est interdit là-bas. D'accord? Et ils ont dit que voilà, ils coupent des chiens et ils font la soupe et tout. Et des gens qui pratiquent la religion, des pratiquants, ils ne se posent pas des questions, c'est thabit, c'est pas vrai, ils ne font pas cher, S-H-A-R-E, c'est ça de nos jours, ils font tout cher, ils donnent les informations, ils propagent. Est-ce qu'on renforce la umma ou on affaiblit la umma? On donne des sou'van, des personnes qui disent, ah, astaghfirullah, ça c'est descendu des sahaba, ils trompent les gens, ils font ça, na'oudhou billah, quand il est tohmat, bref, ala wajhil umum, de façon générale, quand on entend quelque chose, on ne doit jamais propager tant qu'on n'est pas, on n'est pas sûr. Hein. Également, parmi les règles de base, finir avec ça, le prophète sallam nous enseignait, les sahaba, ils expliquent, kana la yantaqimu li nafsi. Kana la yantaqimu li nafsi. Le prophète ne se vengeait jamais pour une cause personnelle. Quelqu'un lui faisait du tort à lui, à sa famille, il ne se vengeait pas. Mais quelqu'un touche la religion, là il est là. Il ne touche pas la religion. Mais pas de vengeance personnelle. Maintenant, si, subhanallah, on a intégré ces règles de comportement prophétique, ben, la société se porterait mieux. Quelqu'un vous a fait quelque chose, tu n'es pas obligé d'aller l'humilier comme lui, il a essayé de t'humilier. fais maf, pardonne à la personne, demande à qu'Allah lui accorde ce pardon et que Allah lui donne les qualités pour ne plus recommencer. Il va le voir, dit voilà, tu as fait telle chose, c'était pas bien. Mais bref, la mujtama s'en sentira renforcée. Alors que quand on va se venger, on va essayer de faire ça, on va créer la discorde, la zizanie, et ça va s'étendre à des individus, à des groupes d'amis, à des clans, à des familles, et on est en train de semer là, la zizanie. Alors que le prophète sallam ne s'est jamais vengé pour une affaire personnelle. Donc là, encore une règle de vie, donc ne pas s'attarder sur les choses qui ne nous concernent pas. On terminera avec cette conclusion. Le alim il explique qu'on a tellement peu de temps pour préparer notre akhirah qu'il ne nous est pas permis, on n'a pas ce loisir de perdre notre temps à s'occuper des problèmes qui ne vont engendrer que d'autres péchés, en plus du péché qu'on est en train de faire, et ça va nous éloigner encore plus du sommet de iman des plus hauts degrés de husni islam al-mar'i. Allah ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah azza wa jalla nous donne les qualités, les akhlaqs de notre prophète alayhi salatu wa salam, que nous le prenions comme uswatun hasana, comme modèle dans les actes d'adoration mais également dans le comportement. Et encore une fois, qu'Allah azza wa jalla facilite le hajj de nos pèlerins, de nos frères et sœurs en islam qui vont se rendre à Mina demain et que ce hajj se déroule dans de parfaites conditions. Allah leur accorde sa protection, qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas de vent, que les conditions soient favorables et qu'il ne fasse pas trop chaud aussi, que alhamdoulilah, le climat est doux et correct et qu'il puisse obtenir le tawba et l'acceptation, le dua wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.